printemps du livre Grenoble 2025, les rencontres littéraires radiophoniques de la librairie des étudiants. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de commencer aujourd'hui avec vous cette série d'entretiens de la librairie des étudiants au printemps du livre de Grenoble 2025. Cette nouvelle édition est riche de rencontres littéraires à Grenoble et j'ai eu le grand plaisir d'interviewer pour vous des auteurs et des autrices qui sont venus nous voir au cœur des Alpes durant ce week-end exceptionnel. Je veux chaleureusement remercier Karine Dinka Tomasini de la mairie de Grenoble d'avoir travaillé une nouvelle fois en synergie avec les équipes de Radio Campus Grenoble pour que ces entretiens aient pu voir le jour. Merci également à Claire Lionegger, notre coordinatrice d'antenne, pour m'avoir aidé à porter ce projet qui me tient, qui nous tient à cœur, et d'avoir pu le rendre concret. Je veux aussi remercier les équipes de La Bobine de Grenoble, de l'Hôtel d'Angleterre et de l'Europe, ainsi que les équipes de l'Hôtel de Ville de Grenoble pour nous avoir dédié un espace où réaliser ces entretiens. Enfin, un remerciement particulier à mon ami Jean-Francis Massa pour sa confiance et pour être venu avec moi immortaliser par image ces entretiens. Pour le premier entretien de la librairie des étudiants au printemps du livre de Grenoble, je vous propose de passer une nuit dans un lieu singulier. J'ai eu le plaisir de rencontrer l'autrice Ananda Devi, qui a fait paraître en août 2024 le récit « La nuit s'ajoute à la nuit », un récit publié dans la collection « Ma nuit au musée » des éditions Stock. Pendant une nuit, Ananda Devi a arpenté les couloirs de la prison de Montluc à Lyon, arpenté des couloirs entre les échos de l'histoire. Mais alors, qu'est-ce qui a motivé le choix de passer une nuit dans ce musée ?
Alors, j'avais eu l'occasion de visiter la prison de Montluc, qui est un mémorial maintenant de la Seconde Guerre mondiale, quelques mois auparavant, dans le cadre du prix littéraire Montluc, Résistance et Liberté. Donc, mon roman publié en 2021, Le Rire des Déesses, était en lice pour ce prix. Et ils m'ont proposé de visiter le mémorial que je ne connaissais pas du tout. Et dès cette première visite, j'ai immédiatement senti qu'il y avait là comme une sorte de présence, non seulement de tous ceux qui sont passés par ces murs, mais également des murs eux-mêmes, du lieu lui-même qui m'a bouleversée et qui m'a vraiment fait ressentir quelque chose de très très fort. Et je me suis dit, puisqu'il fallait passer une nuit dans un lieu porteur et à propos de laquelle il fallait écrire un livre par la suite, ça m'est tout de suite venu à l'idée que ce lieu-là me permettrait d'exprimer beaucoup, beaucoup de choses qui me semblaient importantes.
Alors justement, vous parlez de la mémoire des murs. Vous parlez aussi d'un lieu où se trouve l'humaine poussière, c'est se mettre en quête de sentir, de percevoir des choses. Et en même temps, vous semblez aussi quelque peu l'appréhender cette nuit dans ce musée. C'est un lieu où se succède un siècle d'histoire entre les prisonniers politiques du régime de Vichy, les juifs déportés, des enfants d'Isieux également, des prisonniers français et algériens en 1960, le boucher de Lyon Klaus Barbie ou encore des hommes et des femmes jusque très récemment. Quelles émotions vous ont traversées lorsque vous êtes arrivé dans ce lieu chargé d'histoire ?
Des émotions très très fortes. Et il faut dire que le lieu lui-même, c'est une prison qui date de 1921 et qui a été gardée en l'état. Donc elle n'a pas été énormément transformée en devenant un mémorial. Et donc lorsqu'on y entre, et surtout en y passant une nuit seule, on a vraiment l'impression d'être là où ont été justement enfermés, tant incarcérés, tant de personnes, de résistants, de juifs, d'algériens et des prisonniers et prisonnières du droit commun. Et pour moi, c'était dès l'entrée dans la prison, j'ai senti comme un poids s'installer sur mes épaules, une appréhension non seulement de cette nuit, de solitude, mais aussi d'expériences très profondes, mais également une appréhension de ce que j'allais écrire. J'y suis entrée un peu comme avec une page blanche, quoi, sans avoir eu aucune préconception de ce que j'allais écrire. Je voulais vraiment laisser la nuit être porteuse et me laisser guider par elle plutôt que de venir avec, disons, dans ma tête, une idée précise de ce que j'allais faire. Mais la crainte dans ce cas-là, c'est de se dire, mais si j'en ressors et il n'y a rien qui en résulte. Et donc il y avait une double, une appréhension double, ou même voire multiple. Mais je pense que c'était surtout dû au fait que je pressentais quand même que j'allais vivre une expérience très forte et me mettre à l'écoute plutôt que de dicter le destin du livre, je dirais.
Est-ce que justement, en étant seul dans ce musée, est-ce qu'écrire, c'est écouter et capter le vide qui vous a entouré ?
Quelle belle question. Je trouve ça magnifique ce que vous venez de dire, parce que c'est vrai qu'à l'arrivée, bon, j'avais dans mon sac un carnet, un crayon, mon ordinateur, des livres. Et mon premier réflexe a été de m'asseoir avec mon carnet et mon crayon en me disant je vais noter tout ce que je ressens. Mais en fait, si on est assise avec son carnet et son crayon, en fait, on n'est justement pas à l'écoute et on n'est pas en contact avec ce qu'on est venu rencontrer. Et presque tout de suite, je me suis dit non, ça ne marchera pas de cette façon-là. Donc j'ai laissé de côté mon ordinateur et mon carnet. Je me suis mise à déambuler dans la prison, mais avec mon téléphone, donc pour dicter ce que je ressentais, mais également pour me mettre en situation d'écoute plutôt, et de réception, je dirais, de devenir quelqu'un qui a accepté de s'ouvrir à ce lieu et de ne pas se refermer sur son écriture, comme j'ai l'habitude de le faire. Donc c'était vraiment modifier ma propre attitude par rapport à l'acte d'écrire et d'être vraiment donc à l'écoute et de m'ouvrir en fait au lieu.
Ces fichiers audio dont vous parlez, quand vous les avez réécoutés,
oui.
Vous étiez de nouveau dans le musée ou est-ce que vous aviez un peu de recul quand même ?
Ils m'ont permis vraiment de me remettre, je dirais, en condition. D'autant plus qu'il pleuvait beaucoup ce jour-là, c'était un déluge, mais de temps en temps, parce que j'avais une sorte de sentiment d'étouffement aussi, je devais sortir dans la cour donc, de la prison. Et j'avais mon parapluie, donc j'entendais le vent, j'entendais le crépitement de la pluie en me réécoutant. Et à un moment dans le livre, je dis une salve de pluie ou de vent. Et ce mot salve était très fort parce que je me retrouvais aussi devant le mur des fusillés où les gens avaient été. Et donc c'est vrai que c'était des lieux tellement forts. Et j'ai dû écrire aussi le texte tout de suite après mon retour pour ne pas perdre justement ces émotions très fortes.
Cette urgence de l'écriture, est-ce que c'est lié d'abord au lieu, mais est-ce qu'il faut nécessairement écrire comme au scalpel, comme le pensait Primo Levi, par ces lieux justement ?
C'est la première fois que j'écrivais dans des conditions aussi particulières. Et c'est vrai que Primo Levi était quand même vraiment à mon esprit à ce moment-là. Écrire au scalpel... On pourrait dire que dans mes romans aussi, je tente de le faire parce que ce sont en général des romans où il y a de la violence, il y a l'humaine poussière comme que vous citiez tout à l'heure qui vient de Dante. Souvent, ce sont un peu des descentes aux enfers que j'ai décrites. Et là, je me mettais moi aussi quasiment dans la même position que mes personnages que j'ai tendance à enfermer. Mais en essayant d'être face au scalpel de l'histoire, scalpel dans beaucoup de sens, y compris dans celui dont parle Primo Levi, mais aussi par exemple à l'idée qu'il y avait une guillotine qui était montée dans cette prison et que des Algériens avaient été guillotinés là sur place. Donc oui, et puis il faut aussi quelque part... couper à travers sa propre chair, je dirais, ou ses propres émotions pour les rendre aussi palpables et aussi vives que possible.
Vous dites que tout texte est quelque part un château hanté, un récit peut-être sur une famille. En quoi la nuit s'ajoute à la nuit et peut-être un château hanté pour vous ?
Il est certain que cette nuit, j'ai été hantée par beaucoup de choses. Alors, pas seulement par le lieu, mais aussi par le fait d'être face à soi-même. C'est aussi une plongée en soi. Et je devais aussi penser à mon propre passé pour essayer de comprendre comment saisir ce présent-là, ce moment-là. Essayer de trouver un lien de mon passé avec l'histoire que je venais confronter ici, l'histoire de la Shoah, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, de l'Algérie aussi, qui ne font pas partie de mon passé généalogique, je dirais. Donc en replongeant dans mon propre passé, dans le passé de la prison, dans les mémoires différentes qui l'ont traversé, je devenais hantée aussi par toutes ces présences, toutes ces absences aussi, je dirais, y compris l'absence, par exemple, de ma mère, dont je parle aussi dans ce livre. Et oui, jamais je n'ai ressenti aussi fortement cette idée que Fabienne Canor, que je cite donc en disant « Tout roman est un château hanté », en fait, tout texte l'est, on est hanté à la fois par soi, par son passé, par le sujet aussi. Et si on n'est pas hanté, on ne peut pas écrire avec une telle intensité aussi. Et pour moi, ça, c'est très, très important d'essayer de capter une intensité qui va mettre le lecteur quasiment dans la même dans le même état d'esprit que moi, que les lecteurs auront aussi l'impression d'être en train de passer une nuit à travers dans cette prison et à travers toute cette histoire.
Votre texte y capte l'histoire d'autres personnes qui sont passées dans cette prison. Vous posez aussi cette question que il est difficile de s'approprier l'histoire des autres, celle que d'autres ont pu vivre et que nous forcément nous ne vivrons pas. Est-ce qu'il fallait écrire ces fameuses histoires pour que vous puissiez vous-même accepter d'être témoin, d'être aussi un relais de ces histoires, ou est-ce que c'était trop difficile avant ?
Je crois que ce qu'il y a de, disons, d'intéressant dans un roman, par exemple, c'est qu'on peut justement s'approprier la vie des autres, puisque ce ne sont pas des vies réelles. Ils sont des personnages qu'on a envie de saisir, d'explorer, mais ils restent des personnages qui sont sortis de soi, de sa tête, de sa propre imagination. Là, peut-être la crainte, voire même la terreur, c'était d'aller à la rencontre de personnes réelles. C'était de ne pas les trahir, de ne pas avoir ce sentiment, comme je le raconte au début du livre, qu'il me dirait « Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu n'as pas ta place, tu es une intruse. » Je venais avec ces craintes-là. Mais en même temps, c'était peut-être quelque part une première pour moi de me confronter à l'histoire vraie, à des personnages réels. Mais je me rendais compte aussi qu'avec le temps, toutes ces personnes deviennent des figures, deviennent quasiment des personnages autour desquels on a construit une histoire. On en fait des héros ou on en fait des monstres comme Klaus Barbie, mais on oublie qu'ils ont été des personnes comme vous et moi. Et dans chaque cellule où il y a une photo des résistants qui ont été incarcérés ou des juifs, enfin des différentes personnes qui ont été prisonniers de Montluc, je tentais de redécouvrir quelque part ou d'écouter qui était cette personne. Je pense à Marie Renoir, par exemple, qui est une grenobloise. Oui. Et ce matin, j'étais au lycée Jean-Paulion pour discuter avec des élèves. Et suite à la lecture de mon livre, ils ont fait un peu de recherche sur elle. Mais en fait, ils ne la connaissaient pas. Et donc, on a une rue nommée de son nom, un lycée aussi, mais on oublie que ces personnes-là ont été vraies, ont été des personnes comme vous et moi qui ont fait un choix d'engagement, de résistance. Et c'était un peu ça que je voulais toucher. Donc je ne suis pas une historienne, je ne voulais pas que ce soit un récit sur leur vie, mais un moment où on capte la présence de ces personnes et leur humanité, et ce qui nous permet aussi de nous confronter à nos propres choix de vie.
Vous leur rendez quelque part une forme d'humanité, comme vous dites, en allant chercher au-delà des simples lignes qu'il y a sur les écriteaux. Est-ce que c'est à partir de là que vous vous êtes dit, et que vous vous êtes aussi questionné, parce qu'effectivement il y a beaucoup de questions que vous vous posez dans ce livre, est-ce que c'est à partir de là que vous vous êtes posé la question, quel est mon rapport à ma présence au monde ?
Oui, c'est une question qui m'obsède un peu depuis assez longtemps, mais de plus en plus aujourd'hui, où tout le monde a un peu un sentiment d'impuissance par rapport à tout ce qui se passe autour de soi. On est assailli d'informations à propos de tout ce qui se passe à chaque instant dans le monde, pour la plupart des catastrophes provoquées par l'humain de différentes façons, des guerres, des conflits, et en même temps assaillis par un sentiment d'impuissance face à tout cela. On finit par se dire, bon, je n'y peux rien, donc je ne fais rien. Et à ce moment-là, cette question qui se pose, y compris pour l'écrivaine, parce qu'elle se dit, écrire suffit-il ? Je pose cette question dans le livre. Est-ce un engagement suffisant ? Comment faire acte de présence face à tout ce qui se passe ? Est-il encore possible de résister ? Est-ce qu'il faut une nouvelle forme de résistance ? Donc c'est un livre finalement qui est devenu extrêmement important parce qu'il m'a permis aussi d'exprimer tout ce ressenti, tout ce questionnement. Et je crois que c'est un questionnement nécessaire. Je n'ai pas les réponses, mais en me posant cette question, j'essaie aussi d'amener mes lecteurs à partager le même questionnement et à se dire peut-être il y a d'autres manières de résister ou de s'engager.
D'autres manières de résister, certains s'y sont essayés aussi par l'écriture via de la poésie. Vous la citez aussi, vous faites de nombreuses références littéraires dans votre livre. Est-ce que la poésie est peut-être à vos yeux ? Là, je questionne la lectrice également que vous êtes. Oui. Est-ce que c'est la meilleure forme d'écriture devant l'impossible pour résister ?
Je me suis rendu compte, surtout pendant l'écriture de ce livre, mais avant aussi, que les prisonniers, notamment les prisonniers politiques, mais autres aussi, écrivent beaucoup de poésie. Probablement parce que dans des conditions d'incarcération, c'est difficile déjà parfois d'avoir accès au matériel physique pour écrire, donc pas pour écrire de longs textes sans doute, et c'est vrai qu'on lit souvent à propos d'un prisonnier qui utilise du papier toilette pour écrire par exemple, et c'est le cas de Bobby Sands, l'une des personnes dont je parle dans le livre. Et c'est vrai que c'est une poésie de l'urgence. Et c'est vrai aussi, il est vrai que pour moi, depuis toujours, la poésie était un moment de vérité profonde, des poètes face à eux-mêmes d'abord, où il n'y a pas ce qu'on pourrait appeler le masque de la fiction ou la construction d'une fiction. On est là dans une sorte d'urgence d'expression de soi et d'un moment de très intense introspection qui va aussi se communiquer au lecteur. Et c'est vrai que face à l'impossible de cette, par exemple, de ces prisonniers à Montluc, je pense à René Lénaud qui est mort à 33 ans, fusillé aux environs de Lyon, mais qui a été emprisonné à Montluc et qui dit « laissez ce gars vivre ». Et quelque chose comme mort s'en suive. J'ai oublié la citation exacte, mais quand on lit ça et qu'on entend laisser ce gars vivre, on sent le désespoir humain, mais aussi l'espoir humain, les deux dans une seule phrase. Et ça, il n'y a que la poésie, je pense, qui puisse le faire.
La poésie, finalement, comme presque un marqueur d'histoire.
Je pense que oui, oui, parce que, comme je disais tout à l'heure, souvent les livres historiques sont des récits, mais des récits distanciés du sujet. Et la poésie, on est au cœur du sujet, on est au cœur de l'émotion. Et je crois que rien d'autre ne peut nous permettre de pénétrer aussi profondément dans une âme humaine confrontée à la souffrance extrême ou dans d'autres cas, au bonheur extrême.
Il y a un sujet qui parcourt en filigrane, mais qui est très présent dans votre livre, c'est forcément le devoir de mémoire, à travers toutes les personnes qui ont pu passer dans cette prison. Vous citez un article du journal L'Aurore, du 4 août 1960, qui dit ceci: « Les nazis eux-mêmes ne confondaient pas politique et droit commun. Indifférence, voilà le mot d'ordre pour la plupart des Français actuellement. Lâcheté aussi. Osons le dire, nous sommes des Ponce Pilate. Les horreurs ne nous concernent pas. Il suffit de bien leur tourner le dos, de bien fermer les yeux, de bien nous boucher les oreilles et le nez. » Aujourd'hui, par hasard, je suis passé devant Montluc. Tout à côté, dans de grands immeubles, des gens vivent. Je veux croire qu'ils ne savent pas, qu'ils ne voient pas. Et je sais bien qu'ils savent, que nous savons tous, même si nous ne voyons pas. Est-ce que le devoir de mémoire, malgré son importance, est aujourd'hui trop lourd à porter ?
Je ne crois pas qu'il soit trop lourd. Je pense au contraire qu'il est nécessaire. Mais cet article du journal L'Aurore qui date de 1960, on se rend compte à quel point il pourrait être lu aujourd'hui.
Ça n'a pas vieilli. Ouais.
Ça n'a pas vieilli. Et en fait, avant même de l'avoir lu, quand j'arrivais à la prison de Montluc, qui est au centre de la ville de Lyon, et je me disais, mais tout le monde passe devant tous les jours sans savoir parfois ou sans réfléchir à ce qui s'y est passé. Sans doute, cette idée d'impuissance dont je parlais tout à l'heure contribue à l'idée que le devoir de mémoire est trop lourd. On ne va pas, et puis on entend souvent, on ne va pas toujours payer pour les crimes du passé. On l'entend beaucoup au sujet de la colonisation, de l'esclavage. Quand on en parle, souvent les personnes disent « Oui, mais bon, nous, notre génération n'est pas responsable de ce qui s'est passé avant. » Mais oublier et ne pas se rappeler de ce qui s'est passé avant, c'est oublier que toute l'histoire est un continuum. Aujourd'hui, ce que nous vivons avec les populations migrantes, les conflits d'aujourd'hui, ne datent pas d'aujourd'hui. Ils ont été créés par des circonstances historiques qui nous lient tous, en fait. Et donc, se dire, ce n'est pas notre faute, c'est certain. On ne va pas expier éternellement, non. Mais accepter que tout ça est lié et ne pas retomber dans les mêmes erreurs ou repousser des bateaux dans la Méditerranée et en faire un cimetière, ou faire ce que Donald Trump fait aujourd'hui, c'est recommencer les mêmes atrocités ou poursuivre les mêmes atrocités. Et dans ce sens-là, le devoir de mémoire est important pour ne pas refaire les mêmes erreurs.
La nuit s'ajoute à la nuit. C'est dans la collection Menu au musée, aux éditions Stock, et c'est toujours disponible en librairie indépendante. Merci Alanda Devi.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup d'être venu à ce micro pour partager et parler ensemble de votre livre. Amis auditeurs et auditrices, je vous donne rendez-vous mercredi pour découvrir le prochain entretien de la librairie des étudiants au printemps du livre de Grenoble, celui réalisé avec Julien Martinière. La capsule auditive de notre entretien du jour est à retrouver sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8. À la rubrique de la librairie des étudiants. Je vous souhaite une belle journée et surtout le plus important, d'avoir de belles lectures.